voyage en somnolence. Bric-à-brac poétique.
Une émission proposée par Delphine.
Bonsoir à toutes et à tous. Selon le moment où vous entendrez cette émission, le saucisse d'hiver ne sera pas passé. Parce que, enfin, c'est pas vous, mais moi j'ai prévu un super petit. Enfin, j'ai pas forcément raconté vraiment, on va dire, les détails de ma vie personnelle dans cette émission, c'est un peu compliqué. Mais en gros, j'ai prévu avec un ami un super petit glouch à Montpellier avec un pote où on va aller au jardin des plantes et faire quelques offrandes d'eau à la nature et tout. Ça va être assez rigolo. Et on va aussi regarder des films, cette émission. Voilà, donc du coup, ce soir, je vous propose d'écouter. Alors, il y a deux parties dans cette émission. Je vous propose d'écouter un conte assez court de Kenji Miyazawa, qui est un auteur japonais, qui écrit des contes très inspirés notamment par son folklore, et également par le bouddhisme, parce que voilà, c'est également par sa croyance bouddhiste. Alors c'est pas forcément quelque chose d'hivernal, mais j'ai pensé que ça pourrait peut-être nous réchauffer un peu. De se remettre dans un bain un peu comme l'été, un peu comme cette image de l'épinal de l'enfant au chaud devant un feu de bois avec la neige qui tombe dehors. Donc ses parents lisent une histoire, c'est peut-être un peu réchauffé, je sais pas, se réchauffer un peu nos cœurs un peu assombris en cette saison, parce que je sais que beaucoup d'entre nous c'est compliqué. Du coup, ça sera l'histoire s'intitule Les Astres Jumeaux, et il y aura donc une suite le mois prochain. Sève occidentale de la rivière du ciel, on peut voir deux étoiles grosses comme des spores de prêle. Et là, dans deux petites palettes de cristal, vivent les astres jumeaux, Shunze et Posé. Les deux édifices transparents sont placés exactement l'un en face de l'autre. Lorsque tombe le soir, les jumeaux regagnent leur palais ponctuellement, prennent une posture très digne toute la nuit. Ils jouent de leur flûte d'argent pour accompagner un rhombe des étoiles au ciel. Et là, le rôle dévolu à ses astres jumeaux. Un matin, alors que le soleil s'élevait depuis l'Orient, dans un débrouillement majestueux qui le secouait tout entier, Shunze posa sa flûte d'argent et s'adressa à son jumeau. « Posé, que dirais-tu si nous arrêtions à présent? Le soleil est levé, la blancheur des nuages est éblouissante. Aujourd'hui, si nous allions à la source des pâturages de l'Ouest ?» Encore tout rêveur, les yeux mi-clos, Posé continue à jouer de la flûte. Shunze sortit alors de chez lui, enfila ses chaussures et gravit les marches de son palais jumeau. « Posé, ça suffit maintenant, » répéta-t-il. « À l'est, le ciel est comme chauffé à blanc. Au-dessous, tous les oiseaux me semblent éveillés. Écoute-moi, pourquoi n'irions-nous pas à la source des pâturages de l'ouest ? Avec des boules à vent, nous fabriquons du brouillard et nous amuserons à faire jaillir des pistes arc-en-ciel. » Surpris, Posé laissa sa flûte et reprit enfin ses esprits. « Ah, Shunze, excuse-moi, tu as raison. Il y fait clair. Je me chausse tout de suite. » Posé enfila ses sandales faites de coquillages blancs et tous deux, main dans la main, se mirent parcourir avec un arche du ciel. « Oh, vos nuages blancs du ciel, baladez, purifiez les chemins du soleil, que sa lumière s'éparpille. Oh, vos nuages bleus du ciel, les chemins du soleil, couvrez-les de gravier en totalité. » Chantèrent-ils à l'unisson. Ils se retrouvèrent alors à la source du ciel. Par une nuit claire depuis la terre, il est possible de voir cette source. Au-delà de la rivière occidentale, de la rivière du ciel, on a lieu assez écarté, elle est ceinte d'un monde de minuscules étoiles bleues. Le fond est orné à plantis, couvert de menues pierres arrondies et bleues. Et entre les cailloux, un flot clair jaillit depuis les eaux profondes. Rouille, rivière du ciel, et se change en un ruisseau impétueux. Quand notre monde subit des sécheresses, nous ne distinguons pas. Quelquefois, les faucons de nuit amaigris, les coucous aux trois eaux, tout silencieux à tête levée, la gorge piquante, trapeuse, tendue à cette source. Nul animal terrestre ne sont pendant des capables de parvenir jusque-là. Mais les constellations comme le corbeau, le scorpion, le lièvre, elles, bien entendu, peuvent la rejoindre en un instant. Posez sur le balcon de la banque une cascade, tu veux bien? Oui, oui, d'accord. Moi, j'ai dû transporter des pierres. José ôta ses sandales avant de mettre les pieds dans le ruisseau, tandis que posé sur la berge, rassemblait des pierres faciles à manier. À présent, le ciel était rempli d'une bonne odeur de pommes. Pas encore tout à fait disparu à l'Occident, c'était une argentée qu'il avait exhalée. Soudain, au-delà des pâturages, on entendit une voix puissante qui chantait « Ô puits du ciel, à distance légère, sous la rive aux ouest, de la rivière du ciel, dont nous coulent les couilles, et roulent les couilles, pierre miroir jusqu'au fond, des étoiles bleues, fond l'âme, rôde autour, faucon de nuit hibou, puviez vous léger, à vous désaltérer, non vous ne pouvez pas. Oh oh, s'écrient les enfants d'une même voix, soit la constellation du corbeau. » Oui, des bruissements divisaient les roseaux. Puis Mécéleste, vêtue d'un manteau de velours noir et d'un caleçon, en velours également, le corbeau arrivait en roulant des épaules, n'a pas avantageux. Apercevant les deux garçons, il s'arrêta et salua poliment. Bonjour, chinois et posé. Quel temps magnifique, n'est-ce pas? Quand il en fait si beau, pourtant, moi, j'ai pris comme en soif. En plus, l'année dernière, j'ai dû chanter un peu trop fort, excusez-moi. Donc, c'est bon, le corbeau plongea le bec dans la source. Je vous en prie, répondit posé. Buvez tant qu'il vous plaira. Le corbeau but trois bonnes minutes, sans même reprendre souffle. Et il faut ouvrir de gorge, puis il releva le bec qui mit un petit coup d'œil et se resecoua. Chut! Pour chasser les gouttes. À l'opposé, la pavée noire rude. C'est moi, le scorpion aux yeux rouges. Je viens du ciel du sud, j'accroche empoisonné de grandes passes qui ignorait donc un crétin de voyati un albatros. Le scorpion s'écria le corbeau furieux. Quelle brute, insulté les gens de la sorte. Mais vous verrez, quand il sera là, je lui arracherai ses yeux rouges. Corbeau, écoutez, tenta de dire Shinze. Il ne le faut pas, notre roi le saura. Déjà, le scorpion aux yeux rouges s'avançait, agitant ses grandes pinces, sa longue queue tente, dressée en air. Au milieu des pâturages du ciel, paisible, ses crissements résonnaient sèchement. Le corbeau trembla de colère, prêt à se lancer. Les astres jumeaux firent leur possible pour le retenir. Sans se soucier, au moins du monde du corbeau, le corbeau s'envola jusqu'à la source. « Ah, je ne sais pas, fiché, tiens donc, les astres jumeaux, bonjour vous deux. » Pardonnez-moi, mais il faut que je boive un peu. C'est curieux, oui, curieux, vraiment, ce drôle d'odeur, de terre. On dirait qu'un crétin noir, il bouge sa tête. Burk, enfin, je vais boire tout de même. Sur ce, le scorpion but un gros goutte des longues minutes. Durant tout ce temps, sa queue au crochet empoisonné ne cessa de frétiller en direction du corbeau. Comme ça, le scorpion voulait véritablement le provoquer. Le corbeau déploya en grand ses ailes et cria « Dis donc, scorpion, tu m'as sauté de la bouche tout à l'heure. Trop d'excuses et vite !» Le scorpion réussit enfin à sortir sa tête de l'eau et fit rouiller ses yeux rouges. On aurait cru déjà une résilience. « Ouais, quelqu'un vous a ajouté ?» Et ce type rouge, ce gant gris sourit, lui enverrai-je un petit coup de mon crochet. Furieux, le corbeau bondit. « Non, mais dis-moi, Yati, espèce d'effronté, je m'en vais t'expliquer la tête de la première doutre du ciel. » Pris de rage à son tour, le scorpion bondit vivement, en son grand corps et brandit en l'air le crochet de sa queue. D'un bond, le corbeau l'évita, le bec en avant, telle une flèche fournie sur le scorpion en visant le crâne. Le scorpion était profondément blessé à la tête, tandis que le corbeau avait été atteint de la poitrine par un crochet empoisonné. Tous deux gisaient entremêlés, poussant des saillissements de douleur. Ils perdirent connaissance. Le sang du scorpion coulait abondamment dans le ciel et se transformait en horrible nuage rouge. « Oh, c'est terrible !» s'écria Shunze, qui se sent en hâte. Le poison pénétrait le corps dans le corps du corbeau. « Il faut faire très vite respirer. Posez, est-ce que tu pourrais ?» veut dire le corbeau. Et se chaussa, et passa vivement derrière le corbeau, se maintient avec fermeté. Chaussé appliqua à sa bouche la blessure du thorax. « Chaussé, attention !» fit Posez. « Tu ne dois pas avaler venin, surtout cracher aussitôt. » Sans un mot, Chenet expulsa six fois du sang mêlé de poison qui aspira à patin de la plaie. Enfin, le corbeau reprit conscience et ouvrit des yeux vagues. Ah, merci, que m'est-il arrivé? En tout cas, j'ai eu ce gredin. José prit la parole. Il faut rapidement y baigner votre blessure. Êtes-vous capable de marcher? Le corbeau mais sans ses pattes en vacillant. Mais quand il aperçut le scorpion, il cria encore une fois, tremblant de fureur. Heureux de bête venimeuse du ciel, quel bonheur pour y être mort au ciel! Les deux enfants se hâtèrent de transporter le corbeau jusqu'au ruisseau. Et là, il avait soigneusement la blessure, puis exaltèrent sous la plaie. À présent, essayez de marcher doucement et entrez vite chez vous tant qu'il fait jour. Désormais, ne me conduisez plus ainsi. Notre souverain est au courant de tout. Le corbeau, complètement abattu, les ailes pendantes, sans force, inclina maintes et maintes fois. Merci. Vraiment beaucoup. Merci beaucoup. D'un avant, je ferai attention. Ce disant, il se dirigea à pas lourds et traînant vers les prairies lointaines où se dressèrent deux minces roseaux argentés. Les enfants se mirent à examiner le scorpion. Sa blessure et la tête étaient assez sérieuses, mais le sang ne pouvait plus. Puisant de l'eau à la source, il lavait la pied avec soin, puis à tour de rôle, chacun se tapa délicatement dessus. Le scorpion ouvrit faiblement les yeux, alors que le soleil était précisément au mur, mettant du ciel. « Allons, alors demande à poser, tout en épongeant sa sueur. Comment sentez-vous? Le corbeau est bien mort, murmura discrètement le scorpion. « Comment pouvez-vous encore dire des sottises pareilles ?» répondit Shenzhe, légèrement irrité. « Vous avez failli mourir, reprenez-y des forces pour... » Entrez chez vous. Il sera terrible que vous ne soyez pas arrivé d'avoir l'heure du jour. Les yeux du scorpion eurent une lueur étrange. Astre jumeau, je vous demande, acceptez-vous de m'accompagner? Je vous serai très reconnaissant. Nous aurons le faire, occupez-vous bien, répondit Posé. Oui, accrochez-vous à moi aussi. Si nous n'avons pas, nous ne verrons plus dans les temps. Et là, la ronde des étoiles de la nuit ne pourra pas s'accomplir, si je ne sais en écho. Le scorpion se mit en marche à pas chancelants, sans se cramponnant aux deux enfants. C'était comme si les os de leurs épaules ployaient sous leur poids, son poids. Il est de fait que le corps du scorpion était lourd, pas sa taille, elle équivalait bien à 10 fois celle des enfants. Cependant, ils avançaient un pas après l'autre, supportant leur charge du visage écarlate. Le scorpion se déplaçait en titubant, sa queue traînant par derrière sur les cailloux crissés et grinçaient. Il haletait péniblement. En une heure de temps, ils n'avaient pas fait plus d'un kilomètre. Outre son poids, les pattes du scorpion en serraient si fort les deux enfants et leur causaient une douleur si grande qu'ils ne savaient pas plus très bien si leurs épaules et leurs poitrines appartenaient encore. Les pâturages du ciel étincelaient en lumière blanche. Le petit groupe franchit 7 ruisseaux et 10 prairies. Les enfants étaient pris de vertige. Est-ce bien qui avançait? Est-ce bien eux qui tenaient debout? Ils n'avaient plus une conscience claire. Et pourtant se maudit et continuaient leur route. Un pas puis un autre. Le périple dura déjà 6 heures. Jusque chez le scorpion, il fallait encore compter une bonne heure et demie. Le soleil était en train de pénétrer dans les montagnes de l'ouest. Pouvez-vous accélérer un peu de pas? Nous autres, nous devons absolument engager notre demeure dans 1 heure et demie au plus tard. Vous savez, ça doit être très mal, ça doit être péniblement douloureux d'y poser. Oui, c'est la montagne Scorpion. Ce n'est plus très loin, je vous demande un peu de pitié. C'est vrai, répondit Shenzhe en durant sa peine, alors qu'il a l'impression que son épaule allait se briser. Nous sommes plus très loin, votre buffet vous fait mal. À plusieurs reprises, le soleil eut des frémissements très salement augustes. Puis il s'enfonça dans les montagnes à l'occident. Nous devons rentrer chez nous, nous disait Posé. Que faire? Qui personne dans les parages? Il y a une réponse dans le calme des pâturages célestes. Les nuages de l'ouest s'anticipaient en rejoignant. Les yeux du scorpion s'embrasaient également une tristesse rouge. Les étoiles les plus lumineuses revêtirent leur armure d'argent. Il semblait qu'elles commençaient à apparaître en chantant en montant du ciel. Yao, j'ai vu une étoile, je vais devenir célèbre, cria un enfant en bas qui levait la tête vers le ciel. Scorpion, nous sommes plus loin. Pouvez-vous y aller un peu plus vite et tout fatigué? Demanda Shenzhe. Prêtement épuisé, répondit le scorpion d'une voix pitoyable. Pardonnez-moi de vous demander encore un effort. Étoile, ouvrez les étoiles. Il y a bien plus d'une étoile au ciel. Il y a des dizaines de milliers, s'écria notre enfant en bas. Les montagnes à l'ouest étaient complètement noires. Ça et là apparaissaient les scintillements d'étoiles. Le dos de Shenzhe était courbé, au point qu'il lui ressemblait près de se briser. Scorpion, offrit-il pourtant. Mon frère et moi nous sommes mis en retard. Le roi nous grondera certainement. Il n'est pas impossible qu'il nous fasse exiler. Cependant, il sera encore plus affreux que nous vous conduisons pas jusqu'à chez vous. Je suis là sans mourir, ajouta Posé. Je vous en prie, Scorpion, ils sont d'autres nos forces pour nous maintenant arriver, pour amener chez vous le plus vite possible. Ces mots s'écoulèrent brutalement. Je vous demande pardon, dit Scorpion en pleurant. Je suis un imbécile. Je suis pas digne de vous. Je ferai tout ce que je peux désormais pour devenir meilleur, je vous le promets. Sincèrement, ma décision est prise. À ce moment-là, une seule illumination, un éclair vêtu d'une houppelante bloquière, disait de lumière éclatante, voya vers l'astre jumeau. Chacun profondément de vos enfants annonça. Moi, c'est souvent du roi pour vous ramener chez vous. Veuillez vous tenir fermement à mon manteau. Nous serons dans votre palais en un instant. Je ne sais trop pourquoi, mais le roi est extrêmement satisfait de vous. Que tu sois scorpion jusqu'à présent, j'en ai goupillé de bien. Trois te fait apporter ta main de cette médecine. Voilà. Et bien, au revoir, scorpion, écrit à les enfants. Puis-moi votre médecine, votre médicament. Et n'oubliez pas votre promesse, n'est-ce pas? C'est promis. Au revoir. Et les jumeaux s'agrippèrent ensemble au manteau de l'éclair. Le scorpion, il n'y a pas de coller au sol, se prosterna. Puis il but sa potion et salua encore cérémonieusement. L'éclair s'illumina une plusieurs secondes, puis tous se retrouvèrent à ce côté de la source. À présent, allez-vous soigneusement, dit l'éclair aux enfants. Notre roi vous offre ce nouvel habit et ses chaussures. Il vous reste encore un quart d'heure. Quatre jumeaux plongèrent avec ravissement dans le ruisseau froid et cristallin. Ils revêtirent ensuite leurs jeux habits parfumés, d'un éclat bleu lumineux, et enfilèrent leurs nouvelles chaussures blanches et brillantes. La fatigue, la souffrance de leur corps s'était totalisée d'un seul coup. Ils sentaient parfaitement dispo. Maintenant, nous partons, dit l'éclair. On s'accrocha à nouveau à son manteau, et le temps d'illumination violette, ils furent devant leur palais. Quant à l'éclair, il avait disparu. Je ne sais, à présent, prépare un nom opposé. Oui, il est grand temps. Et deux enfants regagèrent chacun leur palais, s'assirent correctement sur leur siège et saisirent leur fil d'argent. C'était un instant précieux à la chanson de la course, des étoiles résonnant dans le ciel. Les scorpions aux yeux rouges, ronds et rouges, l'aigle aux ailes déployées, le petit chien aux yeux bleus, la spirale du serpent de lumière, Oyon chante, oh, disséminant Roger et givre, Andromède et nuée, une bouche de poisson. Honore la grande ours à étirer ses cinq pattes. Au-dessus du front de la petite tour, j'ai la rotation du ciel. Quatre jumeaux commencent à jouer de leur flûte. C'est la première partie de l'histoire en une. C'est assez joli. Et si vous voulez, ça vous intéresse. Je ne peux pas plus connaître l'histoire de cet auteur qui a fait entre autres une histoire faite la prochaine fois. Qui a été adapté en fan, qui a été adapté en anime japonais dans les années 80, je crois. L'histoire en hommage à un poète, avec un voyage contemplatif et philosophique dans un train vers la galaxie, avec que des chiens manisés à son bord. C'est très très joli, magnifique. Je sais plus tellement le nom français, j'essaie de le retrouver. Ça me pour le mois prochain. Du coup, on va se quitter avec une jolie chanson de Nico, parce que c'est mon semi hivernal. Nico, il y a celle qui travaille avec Javette Underground, qui travaille avec Lourette, bref, la célèbre Nico, qui pour One Simon, vous ne le saviez pas, c'est bon de sa carrière, a commencé à faire des chansons qui sont vues un peu comme ce n'est pas que je vais passer ce soir. Bref, beaucoup de chansons, on va dire, qui sont plutôt, on va dire, lié au mouvement gothique. C'est un peu une des premières. Beaucoup de musiciens des années 80 qui ont participé pour une suite de Banshee. À l'époque des 80, on considérait que les chansons de Nico à partir, je crois, des années 70. Oui, à l'époque, je suis plus indépendante. Et on créditait comme une des précurseurs de la musique gothique. Je trouve rien à voir cependant, c'est une chanson d'hiver et je trouvais que ça allait très bien. Il y a un côté un peu moyenâgeux qui me plaît bien, ça va un peu. Du coup, je vous laisse et surtout, bonne nuit. Et on se revoit le mois prochain pour la suite. Passez une bonne soirée!
Snow on your eyelids that curtsy with age is freezing the stairs on tyranny's wings. disease with familiar caresses. Withdrawing from splendor and royal decay among all their triumphs and jaded awards. The angry and blazing circus of sun blasphemes as the crown prince arises. Beget all the sins that you owe to the people of paradise magic. Tend to answer passion and form with foreign rationalization. Primroses are the jewels that lurk among masks of pleasure that flicker with doubt. Dresses of faith that simultaneously fear to advance and demand to be recognized. A river shall flow through hollow green faces of caricatures, resentment etched out of the tongue. Bradington Sphinx is asleep before birth, the classical sensitive failures. The worshipping wicked cling to the dark of your heart, lying there in wait with your angels. Moan and ravish from dawn to dusk the avaricious young lovers.